Bon, alors donc, je vais vous parler donc du Cadorat. Oui, bien sûr. Du Cadorat, donc, cette analysante de Freud. Je pense que pour certains d'entre vous, ce cas est connu. C'est un cas qui est consigné dans les cinq psychanalyses de Freud et qui se trouve aux éditions PUF. Alors, pourquoi reprendre le Cadorat finalement, puisque un siècle s'est écoulé depuis le compte-rendu de cette observation, ce qui évidemment paraît assez lointain pour notre actualité d'aujourd'hui. Eh bien, d'abord, bon, il y a eu un souci, si vous voulez, dans ce cycle de conférences, de parler d'abord de l'apport freudien. Avant, si vous voulez, d'aborder la question de la féminité chez Lacan, je l'aborderai un peu également, mais c'est important quand même de voir au moment de l'élaboration théorique de Freud, de voir comment, au fond, les questions se posaient. Alors, il me semble que ce cas est toujours d'un enseignement actuel. Quant à la question inconsciente, je souligne question inconsciente, que cette analysante finalement pose, et elle pose la question de la féminité par le biais, au fond, de ses symptômes, de ses identifications, de ses rêves sur justement ce qui l'occupe. Alors, l'insistance avec laquelle donc Dora pose sa question sur l'énigme de la féminité pendant les 3 mois que dura sa cure est finalement à la mesure finalement de la surdité de Freud. Qui affichait pourtant au terme de ces 3 mois une certaine satisfaction quant aux résultats obtenus au cours de cette cure. Ce qu'il ne cacha pas d'ailleurs à Dora, et elle lui répondit ceci: Oh, ce n'est pas grand-chose ce qui est sorti. Et finalement, elle prendra congé de lui à la séance suivante, après lui avoir fait cette déclaration. Alors, Freud, bien plus tard, plus de 20 ans après, va ajouter une petite note à cette observation de cette cure, en rectifiant ce qu'il a appelé son erreur technique. Erreur technique. Alors, en quoi consiste cette erreur technique pour Freud? Eh bien, il s'agirait donc d'une omission. Il pense qu'il a omis de ne pas avoir deviné à temps et communiqué à temps à Dora que son amour homosexuel pour Madame K, je vous dirai tout à l'heure qui est Madame K, était sa tendance psychique la plus forte. Avant d'ailleurs, qu'avant de reconnaître l'importance des tendances homosexuelles chez les névrosés, il échouait souvent dans les traitements ou bien il tombait dans un désarroi complet. Alors je trouve que c'est important à souligner parce que on peut dire que Freud n'a pas hésité à consigner des cures qui avaient échoué pour lui. Il avoue son échec dans d'autres traitements et je pense qu'on ne peut pas lui faire le procès d'avoir falsifié quoi que ce soit. En tout cas, dans la cure d'Aura, c'est tout à fait net. Donc, erreur technique d'avoir omis signaler à Dora que son amour homosexuel pour Madame K était sa tendance psychique la plus forte. Il faut entendre évidemment ce terme de amour homosexuel d'une façon absolument précise, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un désir sexuel pour Madame K. Hein. Mais Freud emploie ce terme d'homosexuel qui peut prêter à confusion. Vous allez voir, en effet, qu'il ne s'agit pas du tout d'homosexualité au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Donc, qui était Dora? Alors, Dora, de son vrai nom, Ida Bauer, c'est-à-dire que vous savez que les cas de Freud, il y a eu des gens comme ça qui ont cherché qui était le petit Hans, qui était Dora, etc. Bon, on a fini par savoir qu'il s'agissait d'Ida Bauer. Cette jeune fille était issue d'un milieu bourgeois, riche, une famille juive, autrichienne, et donc Dora, c'est le nom que lui donne Freud dans la consignation de son observation, et à 18 ans, lorsqu'elle vient donc amenée par son père, lorsqu'elle vient voir Freud. Bon. Alors, on sait qu'elle rencontrera une première fois Freud à l'âge de 16 ans, 2 ans donc avant cela, et elle était également amenée par son père, père qui avait été soigné avec succès par Freud, donc il y avait un certain transfert du père à Freud. Antérieurement, il avait été soigné par Freud pour une syphilis. Alors, à 16 ans, pourquoi était-elle venue voir Freud? Eh bien, pour une crise de toux et d'engouement, dont l'origine psychique avait paru tout à fait évidente à Freud, qui avait donc conseillé une cure psychanalytique, mais devant finalement la résolution de cette crise de manière un peu spontanée, eh bien, il n'avait pas du tout été donné suite à une possibilité de cure à 16 ans. Donc, à 18 ans, la voilà donc ramenée chez Freud avec son père. Et là, la situation est bien différente. Son père est très inquiet de l'attitude de sa fille. En effet, elle se plaint d'avoir été sacrifiée par son père au bénéfice de la relation qu'il entretient avec Madame K, sa maîtresse, en la livrant sans défense aux assiduités de Monsieur K, époux donc de Madame K. Elle se plaint donc d'avoir été un objet d'échange, son père donnant sa fille à Monsieur K en échange de la femme de celui-ci. Voilà sa plainte. Donc, ces quatre personnages, Monsieur K, Madame K, Dora et son père, constituent la constellation, la composition essentielle du drame donc, dans lequel Dora se débat. Lacan parle à propos de ce quatuor, il emploie d'ailleurs le terme de quatuor, d'un menuet, d'un quadrille. Vous voyez, il parle aussi à un moment donné d'un ballet. Hein. Alors, au fond, par cette référence en fait chorégraphique, l'accent sur l'échange des places de chacun des protagonistes. Dans le drame de Dora, qui est allé assez loin, puisqu'elle a menacé de se suicider, en laissant d'ailleurs une lettre disant qu'elle voulait se suicider, si son père n'interrompait pas sa relation, sa liaison donc avec Madame K. Donc c'est sur ce motif-là que le père inquiet vient voir Freud. Il ne croit pas tellement au fait qu'elle pourrait passer à l'acte, mais il trouve que la persécution entre guillemets de sa fille est assez inquiétante. Or, bon, cette revendication passionnelle donc de Dora à l'égard de son père remontait à un moment très précis. au cours d'une promenade avec Monsieur K, celui-ci lui avait déclaré, donc Monsieur K lui faisait la cour, et celui-ci lui avait déclaré, donc Monsieur K lui avait déclaré, ma femme n'est rien pour moi. Dora, à ce moment-là, gifle Monsieur K et d'une certaine manière sort de la scène, elle part, elle quitte le bord du lac et à partir de cette date-là, elle refuse de revoir le couple et entame donc cette revendication passionnelle à l'égard de son père. Donc on voit bien qu'il y a un moment très précis, coordonné à une phrase dite par M. K, ma femme n'est rien pour moi. Bon, c'est assez énigmatique, il faut bien dire. Alors, Dora, alors comment c'était venu aux oreilles du père, tout ça? Eh bien, Dora avait mis un petit moment, 15 jours semble-t-il, pour se plaindre à sa mère de ce que M. K lui avait fait, donc, une déclaration. Dit que M. K lui avait fait une déclaration et donc la mère avait transmis l'information au père qui tout de suite s'était inquiété auprès de M. K en l'interrogeant, en savoir si effectivement il avait outragé sa fille. Alors évidemment M. K nia l'interprétation de Dora. Et Madame K vint finalement à la rescousse de son mari en soulignant que Dora s'intéressait aux choses sexuelles, qu'elle lisait beaucoup de livres sur les choses sexuelles. Alors on nous parle de la psychologie de l'amour de Mantegazza, livre je dois dire que je ne connais pas, qui peut-être certains d'entre vous le connaissent. Donc, finalement, Monsieur K, Madame K, le père de Dora, tout le monde avait fini par penser que, excité par ses lectures sur les choses sexuelles, eh bien, elle se serait imaginé la scène du lac. Alors, avant d'entrer donc dans le déroulement de cette cure, je vais vous donner quelques références, si vous voulez, parce qu'il faut replacer cette analyse dans le contexte des élaborations de Freud. Hein. Donc cette analyse s'est déroulée dans les trois derniers mois de l'année 1899, et Freud consigne cette analyse début 1900, c'est peu de temps après l'interruption de l'analyse de Dora. Donc en 1900, on est au début de la théorie des théories de Freud. Donc il y a énormément de choses qu'il n'a pas encore mises à jour, élaborées. Hein. Et, si vous voulez, la cure de Dora emporte la marque. Hein. Alors, par exemple, les interprétations de Freud que nous allons voir prennent appui sur l'Œdipe. Hein. En général, d'ailleurs, Freud interprète par rapport à la question de l'Œdipe, toujours dans les cures. Mais à cette époque, l'Œdipe est conçu pour Freud d'une manière symétrique, hein, pour la fille comme pour le garçon. C'est-à-dire que, au fond, pour les filles ont une inclinaison très précoce pour leur père, elles aiment leur père très précocement, hein, et les garçons, eh bien, c'est une inclinaison pour la mère. Les filles haïssent leur rival, la mère, et pour le garçon, le père. Alors, le salut, bien sûr, pour les filles, serait qu'elles sortent de l'Œdipe en passant du père à un homme, et pour le garçon, de la mère à une autre femme. Alors, ce salut dans l'amour, comme nous le verrons, est très prégnant dans l'insistance de Freud a fait reconnaître à Dora qu'elle aime M. K. D'autre part, Freud n'a pas encore, si vous voulez, élaboré la question de l'identification. Hein. Ça viendra là aussi dans son travail 20 ans après, en 1921, lorsque il produira ce texte qui s'appelle « Les identifications hein, ». Et vous verrez que, pour ceux qui liront le texte, que, au fond, dans le texte, il parle d'identification, mais au sens très souvent d'imitation. Il pose d'ailleurs par moments la question à Dora, qui copiez-vous, etc. Bon. Enfin, ce texte est un premier tournant quant à la question du transfert. C'est-à-dire que pour la première fois, comme le note d'ailleurs Lacan dans son texte « Intervention sur le transfert », Freud remarque qu'il a sa part dans la cure de Dora, c'est-à-dire qu'il a pris une place qui oriente la cure de Dora. Alors, disons-le tout de suite, que la place qu'il a prise auprès de Dora, eh bien, il s'est un peu trop mis à la place de M. K. La raison est sans doute, entre autres, motivée par la sympathie qu'il a pour cet homme. Alors, pourquoi a-t-il de la sympathie pour cet homme, pour M. K. Eh bien, c'est celui-là même qui lui avait adressé le père de Dora pour se faire soigner de cette syphilis. Donc, préjugés et erreurs conduisent Freud à une insuffisante appréciation de la problématique de Dora. Donc, on va voir, si vous voulez, je vais d'abord vous amener comment Freud déchiffre le matériel que Dora apporte dans la cure, comment il oriente et comment il passe complètement à côté de la question de Dora. Alors donc, dès l'entrée de la cure, Freud va bousculer les affirmations de son analysante, qui, après donc lui avoir fait état de ses griefs contre son père, le met au défi d'y changer quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'elle dit à Freud d'emblée? Tout cela, après lui avoir donc fait le récit de ses griefs, tout cela est juste et réel. Maintenant que je vous l'ai raconté, qui voulez-vous changer? Alors, Dora, donc, on le voit dès l'entrée de la cure, d'entrée de jeu, elle convoque, au fond, le savoir de l'analyste. Hein. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous... Savoir dont elle doute, d'ailleurs, de l'efficace. Qui pouvez-vous changer? On verra, d'ailleurs, que Dora, si elle accepte, finalement, de se prêter au dispositif de la cure, c'est-à-dire qu'elle va apporter ses symptômes, ses rêves, elle va participer, d'une certaine manière, activement au dispositif que propose Freud, eh bien, on verra aussi qu'elle est aussi extrêmement réticente aux interprétations de Freud. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il lui fait une interprétation, elle lui répond que non, ça n'est pas ça. Voilà. Donc, le savoir de Freud est mis en échec quasiment systématiquement, et c'est assez remarquable dans cette cure. Alors, en quoi Freud bouscule-t-il finalement les allégations de Dora concernant le fait qu'elle a été sacrifiée par son père? Alors, Freud soupçonne que ces allégations de Dora masquent des reproches qu'elle se fait à elle-même. Alors, il lui en fait part, il lui demande au fond, d'une certaine manière, quelle est votre... aller votre part dans ce que vous dites, hein, c'est-à-dire qu'au fond, c'est ce que Lacan appelle une rectification subjective, c'est-à-dire, au fond, quelqu'un parle et on essaie de dire, ben oui, mais c'est vous qui le dites, et donc, quelle est votre place dans ce que vous dites, hein. Alors, eh bien, Dora en dit un peu plus. À savoir que pendant des années, elle avait favorisé la relation de son père avec Palanka, gardant les enfants lorsqu'elle savait son père avec Madame K. Elle savait que dans ce cas, nous dit Freud, les enfants avaient été renvoyés et elle dirigeait ses pas de façon à les rencontrer et se promener avec eux. D'autre part, on apprend également qu'elle avait accepté la cour de M. K sans s'en offusquer. Il l'avait même antérieurement embrassée, quelques années avant, et certes, elle avait ressenti un certain dégoût, mais sans faire tout le scandale qu'elle faisait maintenant. Alors, cet homme la couvrait de cadeaux, il lui envoyait des fleurs, il lui avait offert un précieux coffret à bijoux, il lui écrivait abondamment lorsqu'il s'absentait. Donc, bon, il faisait une cour assez serrée. Et elle avait accepté tout ça. Alors, on peut dire qu'au moment où Dora, finalement, en dit un peu plus, on a une sorte de renversement de la position de Dora. C'est-à-dire qu'antérieurement, elle était la complice du père. Et maintenant, au moment où elle rencontre Freud, elle est l'enfant sacrifié par le père. Alors, qu'est-ce que Freud déduit finalement de ce renversement? Eh bien, il pense que, au fond, la stratégie de Dora est la même que celle qu'elle dénonce vis-à-vis de son père. C'est-à-dire que c'est une sorte de jeu de miroir. À savoir que Dora avait sa stratégie, avait consisté à masquer son intérêt pour M. K, en favorisant les relations de son père avec Madame K. Comme son père avait facilité les relations de sa fille avec Monsieur K pour favoriser ses relations avec sa maîtresse. Donc c'est vraiment en miroir, finalement. En tout cas, c'est ce que Freud en déduit. Alors, puisque au fond, Dora voulait masquer son intérêt pour Monsieur K, Freud annonce donc à Dora qu'elle est amoureuse de M. K. Ce qui ne produit aucun acquiescement de la part de Dora. Tout au plus, dit-elle, que peut-être autrefois, mais que depuis en tout cas la scène du lac, tout est terminé. Alors, évidemment, si vous voulez, ça ne décourage pas Freud. Alors, pour une raison très simple, pourquoi ça ne décourage pas Freud? Parce qu'au fond, si c'est quelque chose qui est masqué, donc ça serait quelque chose d'assez inconscient, hein, dénié en tout cas par Dora, et donc elle ne peut pas acquiescer puisque c'est dénié par elle. Mais il y a cependant quelque chose qui reste, c'est que pour Freud, c'est de se dire, mais si Dora est amoureuse de M. K, pourquoi a-t-elle été outragée par ses déclarations lors de la scène du lac? Comment s'exprime Freud? Comment une jeune fille amoureuse pouvait-elle voir un outrage dans une sollicitation qui n'avait pas du tout été exprimée de façon grossière ou indécente. Voilà. Alors, Freud, donc, va poursuivre, c'est-à-dire qu'il va chercher dans le matériel apporté par Dora, à travers ses symptômes, à travers un certain nombre d'éléments de ce matériel, une sorte de confirmation de cette première assertion, vous aimez Monsieur K. Hein? Alors, en fait, on peut dire que Freud voit quasiment à tous les instants la preuve que Dora aime Monsieur K. Hein? Donc j'ai pris deux symptômes et puis je vais vous parler de la dernière séance pour vous montrer qu'en fait, Freud n'abandonnera jamais au cours de ces trois mois cette affirmation que Dora aime Monsieur K. Alors d'une part, Dora a présenté un certain nombre de symptômes qui sont... assez connus, qui sont repris souvent en psychanalyse, elle présentait une aphonie et une toux. Alors, toux qu'elle avait déjà d'ailleurs à 16 ans lorsqu'elle était allée voir Freud. Alors, la toux, je la reprendrai tout à l'heure, mais parce qu'elle ne concerne pas directement M. K, mais en tout cas, l'aphonie de Dora interroge Freud. Alors, d'abord, il obtient des informations, à savoir qu'elle était aphone pendant une période toujours fixe, de 3 à 6 semaines. Alors, donc, à quoi correspondait cette durée de ces crises, 3 à 6 semaines? Eh bien, elle coïncidait avec la durée des absences de M. K. Alors, pour Freud, l'interprétation symbolique en était que pendant l'absence de l'aimé, hein, quand elle était au loin, elle renonçait à la parole qui perdait toute sa valeur puisqu'elle ne pouvait pas lui parler à lui. Bon. Mais Freud constate également que ces crises d'aphonie au moment en tout cas où il voit Dora, à un moment donné, ne correspondait plus aux absences de M. K. Donc on pourrait mettre en question cette interprétation, mais Freud, justement, ce qu'il trouve, c'est au fond l'empreinte, la marque de cette signification première qui était l'aphonie, parce que même si M. K était là, eh bien, elle avait des crises qui duraient de 3 à 6 semaines. Et donc, dans ce trait, si vous voulez, de 3 à 6 semaines, il voit la signification primitive de ce que représentait donc l'aphonie pour Dora. Donc, vous aimez, donc, à propos de cette aphonie, c'est vous aimez M. K, puisque quand il est au loin, vous n'avez plus besoin de parler. Dora présentait également un autre symptôme qui est un symptôme d'appendicite. Alors, ce symptôme vient à la fin de la cure, enfin, on nous en parle à la fin de la cure, signaler que Dora avait présenté, 9 mois après la rupture avec M. K, une crise d'appendicite transitoire, avec des douleurs et une hémorragie menstruelle. Et de plus, elle eut pendant un certain temps des difficultés à marcher. Hein. Elle traînait la jambe, elle traînait le pied droit. Or, lorsqu'on s'était inquiété de cette crise d'appendicite, eh bien, on s'est aperçu qu'elle ne coïncidait nullement avec un processus organique. Hein. Donc, pour Dora, pour Freud, pardon, Dora, donc, alors, vous savez, Freud est très... pour lui, le temps, les modalités du temps, là, vous avez vu 3 à 6 semaines, là, 9 mois après la rupture de M. K, donc ça compte toujours, enfin, il s'intéresse vraiment au signifiant, au temps pour recomposer, pour déchiffrer les symptômes. Donc Dora aurait réalisé par cette prétendue appendicite un fantasme d'accouchement. Quant à la jambe qui traîne, Freud l'interprète comme le déplacement d'une faute. Hein. Faut faire un faux pas, hein, avec ce sens un peu sexuel, tout à fait sexuel d'ailleurs, dans l'expression « faire un faux pas ». Et donc, à ce fantasme d'accouchement était liée donc une faute dont elle se punissait, hein, la jambe qui traîne. D'où Freud tire la conséquence suivante. Si vous accouchez 9 mois après la scène du lac et que vous supportez jusqu'à ce jour les suites de ce faux pas, cela prouve que vous avez regretté inconsciemment l'issue de cette scène, dont vous vous êtes puni. Votre fantasme de l'accouchement présuppose qu'il s'était passé quelque chose que vous avez vécu et éprouvé à ce moment-là, au moment de la scène du lac. Vous voyez que votre amour pour M. K persiste jusqu'à présent, bien qu'inconsciemment pour vous. Bon, là, Dora ne répond plus rien à la suite de cela. Enfin, la dernière séance. Donc, jusqu'à la dernière séance, alors que Dora lui fait part de sa décision d'arrêter l'analyse, Freud l'interroge sur « Depuis quand avez-vous pris la décision d'arrêter l'analyse ?» Alors, elle lui dit qu'elle l'avait prise 15 jours avant cette séance, cette dernière séance. Freud lui fait remarquer qu'elle lui donne congé comme on le fait à un domestique. Il faut dire qu'en Autriche, à cette époque, quand on donnait congé à un domestique, c'était donné ses 15 jours. Hein. En France, c'est donné ses 8 jours. Je ne sais pas si c'est toujours actuel d'ailleurs, mais à l'époque, c'était comme ça. Donc, Dora assiste sur le fait qu'une... Alors, il lui dit, vous me donnez vos 15 jours comme on donne à une domestique. Et alors, à ce moment-là, il y a une association qui vient à Dora. Elle associe sur le fait qu'une gouvernante, chez les K, avait également donné ses 15 jours. Donc, ça intéresse Freud. Et justement, ça se passait avant la scène du lac. Cette gouvernante s'était confiée donc à Dora. Alors, quelle était la confidence que cette gouvernante avait faite à Dora? Eh bien, elle lui avait confié que M. K l'avait séduite en lui disant « Ma femme n'est rien pour moi ». Décidément. Puis, M. K, au fond, ça avait l'air d'avoir plutôt séduit la gouvernante, hein, de lui dire « Ma femme n'est rien pour moi ». Puis, M. K n'avait donné aucune suite à cette séduction. Donc, la jeune fille avait attendu, puis avait fini par partir au bout de 15 jours. Alors, à ce moment-là, pour Freud, la gifle de Dora, M. K, s'éclaire enfin. Il s'agit, dit-il, certainement d'une blessure narcissique d'avoir été traitée comme une domestique. Hein. Lorsqu'elle entendit, elle aussi, de la bouche de M. K, « Ma femme n'est rien pour moi ». Dora, après la scène du lac, aurait attendu, elle aussi comme la gouvernante, 15 jours avant d'en parler justement à ses parents. Signe pour Freud, alors comment là aussi il interprète ça? Eh bien, la gouvernante avait dit qu'elle avait attendu 15 jours en espérant que M. K reviendrait sur sa froideur. Donc, Freud fait un parallèle avec la position de Dora. Dora aurait attendu 15 jours avant d'en parler à ses parents, parce qu'elle attendait que M. K lui rendît sa tendresse, donc elle attendait qu'il revienne sur sa position, et la satisfaction donc qu'elle en attendait. Et la réponse de Dora, c'est « Mais quelle satisfaction !» Donc, vous voyez, j'ai pris quelques éléments, parce que, si vous voulez, il faudrait quasiment reprendre l'ensemble de la cure de Dora, parce qu'à chaque fois, Freud voit un lien avec Freud. Mais j'ai pris ces trois éléments pour vous montrer que, au fond, Freud ne lâche pas jusqu'à la fin de la cure son hypothèse que Dora a comme objet d'amour Monsieur K. Et pourquoi ? Parce que, au fond, ça part d'un préjugé de Freud. Et quel est-il, ce préjugé ? Eh bien, c'est tout simple, c'est que les filles aiment les garçons. Voilà. Donc, armé de ce préjugé, n'est-ce pas, Freud ne peut déchiffrer, finalement, le matériel que lui apporte Dora qu'à partir de cette hypothèse que les filles aiment les garçons. Bon, alors, évidemment, il y a d'autres, il y a bien sûr d'autres, beaucoup d'autres éléments que Freud va essayer de déchiffrer, va déchiffrer concernant donc ce que Dora lui apporte dans la cure. Alors, il est quand même très, si vous voulez, très impressionné par les accusations que Dora fait à l'égard de son père. Et en même temps, il y a chez Dora un symptôme, à savoir qu'elle tousse. Là, elle a aussi une toux extrêmement persistante. Et en même temps que persiste cette toux, persistent ses accusations contre son père. Freud voit là donc un enchaînement, lui laissant penser que ce symptôme avait un sens en rapport donc avec le père. Alors Freud à cette occasion rappelle une des significations du symptôme, à savoir qu'une de ses significations est de représenter, de réaliser un fantasme à contenu sexuel. Voilà, donc le symptôme, si vous voulez, précise bien qu'une de ses significations, c'est de réaliser un fantasme à contenu sexuel. Alors, Freud, écoutant Dora, celle-ci soulignait donc que Madame K n'aimait son père que pour sa fortune. Alors en allemand ça se dit Vermögen. Freud à ce moment-là relève que par quelques particularités de son langage, c'est dommage parce qu'il ne précise pas quelles sont les particularités de son langage à ce moment-là, et bien que par certaines particularités de son langage, elle désignait le contraire, Unvermögen, avec comme ça une sorte d'équivoque entre Vermögen et Unvermögen. Alors, en allemand, le terme de Vermögen signifie la fortune et la puissance. Hein, c'est pas très loin d'ailleurs d'un homme fortuné. On sait quel sens sexuel on peut lui donner. Donc, par ses particularités du langage, par cet équivoque, elle indiquait donc que son père était impuissant. Alors, comment Freud se pose la question, comment pouvait-elle dire que Madame K ne s'intéressait à son amant que pour sa puissance, alors qu'il était impuissant? Voilà. Donc, Dora, à ce moment-là, fait savoir à Freud qu'elle connaissait, qu'elle n'ignorait rien, des possibilités d'assouvissement sexuel par le biais d'autres organes. Alors, c'est intéressant parce que l'interprétation donc, de Freud à Dora est la suivante. Il lui dit que son symptôme représentait une situation de satisfaction sexuelle perosse entre les deux personnes dont les relations amoureuses la préoccupaient sans cesse. Voilà, donc si vous voulez, il lit l'obsession de Dora à l'égard du lien de son père à Madame K, avec, au fond, ce symptôme, un symptôme oral, hein, où elle mimerait la relation son père avec Madame K. Évidemment, pour Freud, il s'agit d'une fellation. C'est-à-dire que, vous allez voir, c'est important, parce que il ne s'agit pas tout à fait de cela. Mais Freud a l'idée que, au fond, Dora est identifiée donc à Madame K. Hein? Alors, qu'est-ce que Freud constate? Eh bien, après cette interprétation, donc sur le sens sexuel de ce symptôme, eh bien, Freud constate la disparition de ce symptôme. Alors, c'est intéressant parce que, si vous voulez, à l'époque, évidemment, Freud, qui était déjà accusé de pansexualisme, de tout passer, de tout interpréter par rapport à la sexualité, faut se replacer quand même dans ces années 1900, quand même, où parler de sexualité avec les jeunes filles, ça n'était pas évident. Donc Freud fait tout un développement dans la cure de Dora pour dire que, au fond, les filles savent bien de quoi ils retournent. C'est pas qu'elles en apprennent à Freud, mais qu'en général, elles savent exactement sont fait des relations amoureuses, et il dit, il ajoute quelque chose, il dit, mais enfin, quand il y a un symptôme hystérique, on peut être à peu près assuré que les filles sont très au courant de ce qu'est la sexualité. Donc, si vous voulez, bon, il cherche à montrer qu'il ne raconte pas des choses qui pourraient heurter l'analysant. Voilà, alors donc ça c'est une préoccupation très importante chez Freud, de montrer que même s'il parle de sexualité avec ses analysants, même lorsqu'elles sont jeunes, eh bien, au fond, comme il dit, il appelle un chat un chat, mais qu'en effet, les analysants sont très au courant des questions sexuelles. Donc, voilà donc pour ce symptôme de Dora, en tout cas tel que Freud l'interprète. Et Freud, au fond, il est quand même toujours aimanté par la répétition incessante des pensées de Dora relatives au rapport de son père avec Madame K. Dora, d'ailleurs, avouant qu'elle ne pouvait penser à rien d'autre et répétant continuellement dans la cure, « Je ne peux pas pardonner à mon père ». Voilà. Donc, au fond, pour Freud, il s'agit d'élucider pourquoi Dora est aussi persiste autant dans ses accusations à l'égard de son père. Freud recherche donc la racine inconsciente de l'attitude de son analysante lorsqu'elle enjoint son père de quitter sa maîtresse. Eh bien, pour Freud, donc, elle se conduit comme une femme jalouse à l'égard de son père. Et à ce moment-là, il émet l'hypothèse qu'elle se serait donc identifiée aux deux femmes aimées par le père. Alors, quelles sont ces deux femmes aimées par le père? Eh bien, d'abord la mère de Dora, qui n'était plus aimé au moment de la cure, mais jadis aimé par le père, et qui, au fond, aurait pu, elle, prendre la position de Dora et dire « c'est elle ou c'est moi, il faut quitter Madame K. » Or, c'est Dora qui prend cette position. Donc, pour Freud, il s'agit d'une sorte d'identification la femme, à la mère de Dora. Et puis, dit-il, elle se conduit aussi, elle s'identifie également à Madame K. Alors, pourquoi s'identifie-t-elle à Madame K? Eh bien, Freud envoie la marque dans ce symptôme de toux de Dora, où finalement, elle mime une fellation avec le père. Donc, Freud, si vous voulez, par ce symptôme de toux, pense que Dora est identifiée à Madame K dans la relation sexuelle fantasmée, bien sûr, hein, entre Madame K et le père. Donc, si elle est identifiée à ces deux femmes, ça veut dire qu'elle est amoureuse de son père. Hein. Et, au fond, cet amour pour le père, pour Freud, c'est la racine inconsciente de sa jalousie. Évidemment, lorsque Freud fait part de cette conclusion à son analysante, il obtient pour toute réponse « je ne m'en souviens pas ». Bon. Donc, on peut récapituler. D'une part, Freud dit « vous êtes amoureuse de M. K. » et d'autre part, il lui dit « vous êtes amoureuse de votre père ». Voilà, une grande amoureuse, donc. Alors, mais au fond, ces assertions renvoient toujours au problème non élucidé, à savoir pourquoi, au fond, Dora a-t-elle admis la relation amoureuse de son père avec Madame K pendant plusieurs années, hein, sans faire de scandale, si elle est amoureuse de son père. Alors, la réponse de Freud est la suivante. Eh bien, elle a ravivé, finalement, son amour infantile pour son père pour effacer son amour à l'égard de M. K, dont le motif de l'effacement de cet amour reste à ce moment-là inconnu à Freud. Hein. Je vous l'ai apporté en vous parlant de cette dernière séance avec l'histoire de « Ma femme n'est rien pour moi », mais au moment où Freud déchiffre la jalousie de Dora, eh bien, il n'a pas encore les éléments qui lui permettent de savoir pourquoi Dora est obligée d'effacer son amour pour M. K. Et donc, pense que cet effacement, la façon pour Dora d'effacer son amour pour M. K, c'est de raviver, de faire retour sur ses anciennes amours. Mais, au fond, cette exaspération de jalousie, hein, une femme jalouse, cette revendication jalouse de Dora, conduit Freud à interroger son analysante sur son lien avec Madame K, avant la rupture. D'accord. Alors, qu'apprend-on de ce lien avec Madame K? Donc, je vais vous le lire parce que c'est, je crois que pas nécessaire de le résumer, c'est formidablement bien dit par Freud. J'appris que la jeune femme et Dora, alors à peine nubile, avaient vécu pendant de longues années dans la plus grande intimité. Lorsque Dora habitait chez les K, elle partageait la chambre de Madame K, le mari étant délogé. Dora avait été la confidente et la conseillère de la jeune femme dans toutes les difficultés de la vie conjugale. Il n'existait rien de quoi elles eussent parlé. Lorsque Dora parlait de Madame K, elle faisait l'éloge de la blancheur ravissante de son corps, sur le ton qui rappelait plutôt celui d'une amoureuse que celui d'une rivale vaincue. Oui, je dois le dire, jamais je n'entendis exprimer une parole dure ou un mot de dépit sur le compte de la femme, qui aurait dû cependant être considérée par elle comme l'auteur de son malheur. Alors, au fond, Freud, à ce moment-là, finalement, découvre l'intérêt de Dora pour Madame K. Hein, sur le ton qui rappelait plutôt celui d'une amoureuse que celui d'une rivale vaincue. Alors, Freud tire de ces déclarations que, au fond, les idées prévalentes de Dora à l'égard des relations amoureuses de son père obéissent à deux contraintes. Donc, le fait qu'elle ait été sacrifiée par son père au profit de Madame K, eh bien, il y a deux contraintes. Il faut masquer son amour pour Monsieur K, comme nous l'avons vu, hein, mais aussi, dit-il, masquer son amour inconscient pour Madame K. Donc là, il fait allusion, là, Freud, au fait que Dora a quand même un lien, puisque c'est assez fort, il dit, son amour inconscient pour Madame K. Donc, comment Freud met-il ça en perspective? Il dit que du côté conscient, hein, consciemment, eh bien, elle envie à Madame K la possession de son père. Hein, c'est Dora jalouse. Hein, elle envie à Madame K la possession. Non, pardon. Elle envie à Madame K, oui, la possession de son père. C'est la jalousie, hein, de Dora pour Madame K. Et côté inconscient, eh bien, il faut renverser la proposition, c'est-à-dire que elle envie son père de la possession de Madame K. Et à ce moment-là, Freud dit donc une jalousie analogue à celle qu'aurait éprouvée un homme, hein, puisqu'elle envie son père de la possession de Madame K. Elle voudrait posséder Madame K comme son père possède Madame K. Freud d'ailleurs considère que ce qu'il appelle à ce moment-là ses sentiments virils, dit-il, sont typiques des relations amoureuses chez l'hystérique. Or, loin de tirer donc les conséquences de ce lien de Dora à Madame K, Freud persiste à aller dans le sens de faire reconnaître à Dora que son objet est Monsieur K. Donc voilà, si vous voulez, bon, je reprendrai d'autres éléments de cette observation en vous parlant d'un tout autre point de vue qui est celui de Lacan par rapport à cette cure de Dora. Alors en effet, on peut dire que Lacan s'est beaucoup intéressé à ce cas. Si on en juge par le nombre de séminaires où on retrouve des réflexions, des développements de Lacan sur le cas Dora. Et il y a même dans les écrits un texte qui est consacré à l'analyse de Dora, qui s'appelle « Intervention sur le transfert », un texte qui date de 1951. Alors évidemment, l'interprétation de Lacan sur le cas Dora mettra des accents différents suivant l'évolution, si vous voulez, de sa théorie. Hein. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, au fond, ce qui va mettre plutôt en évidence, c'est l'erreur de Freud, surtout dans son texte, l'intervention sur le transfert, mais aussi dans le séminaire sur les psychoses et dans son séminaire sur la relation d'objet. C'est à savoir que l'erreur de Freud est de confondre l'objet d'amour et l'objet d'identification. Donc, finalement, Lacan va essayer de rétablir l'ordonnancement des places de chacun de ces termes, de ce quator, en développant donc la question de Dora. Parce que, dans ce que je vous ai dit, finalement, en tout cas, des interprétations de Freud, il n'est point du tout question de la question de Dora, hein, puisqu'il interprète toujours, Dora est toujours identifiée à des femmes dans le déchiffrage freudien, et son amour, c'est un amour pour les hommes, le père, M. K. Hein, mais il est très peu question, il n'en est quasiment pas question, sauf à un moment donné où il parle de l'amour inconscient pour Madame K, mais il ne va pas en tirer les conséquences. Hein. Bon. Donc, Lacan va opérer donc une restructuration des relations entre ces quatre termes, le père, Dora, Monsieur K, Madame K. Et pourquoi, quel argument y a-t-il à penser qu'il y a une erreur entre objet d'amour et objet d'identification. Alors, qu'est-ce qui fait donc objection dans le compte-rendu de cette cure à ce que M. K soit considéré comme l'objet d'amour de Dora, hein? Alors, d'une part, il y a l'insistance de Dora à parler donc de son attachement fasciné à Mme K. Et il faut bien dire que dans le scénario, c'est la seule qui ne soit pas égratignée dans l'affaire, même après que Madame K l'eût trahi en dénonçant le fait que Dora s'intéressait aux choses sexuelles. Elle avait quand même pris le parti de son mari, Madame K, et donc elle avait d'une certaine manière trahi Dora, et pourtant Dora ne manifestait aucune hostilité à l'égard de Madame K. Alors, il y a cet élément, évidemment, qui est très important, dont on peut faire l'économie, et d'autre part, il y a cette phrase insupportable prononcée par Monsieur K. « Ma femme n'est rien pour moi. » Alors, au fond, cette phrase, c'est une manière de dire à Dora qu'il n'y a qu'elle qui compte dans l'affaire. Hein? Et ça pourrait être pris comme un hommage, hein, un hommage qu'il lui rend, et vous êtes la seule qui compte, finalement. Eh bien, cet hommage qu'il lui rend lui vaut une gifle. Et ce n'est donc pas l'hommage qu'il lui adresse qui intéresse Dora, mais ce qu'il dit de son désir pour sa femme. Ce qu'il dit, c'est que, au fond, il ne la désire pas, qu'elle n'est rien pour lui. Or, justement, Madame K n'est pas rien pour Dora. C'est elle qui polarise, au fond, l'intérêt, le désir des hommes. Hein. On sait qu'elle polarise le désir de son père, mais aussi de M. K, parce que Dora avait reçu les confidences de Mme K, qui se plaignait des assauts de son mari. Hein? Donc, au fond, cette figure, cette autre femme, Mme K, elle intéresse Dora, et ce qui intéresse Dora dans M. K, c'est son désir pour sa femme. Et de même que ce qui intéresse Dora par rapport à son père, c'est quand même son désir impuissant pour Madame K. Au fond, si elle s'intéresse au désir de ces hommes, et pourquoi elle s'intéresse au désir de ces hommes, c'est qu'au fond, en dessous, si vous voulez, il y a là pour elle une question. C'est qu'est-ce que c'est que cette femme pour ces hommes. Hein? Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'être une femme pour un homme? Alors, dès lors, on découvre la place, au fond, de l'identification virile de Dora. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'identification de virile de Dora, c'est-à-dire qu'elle s'identifie comme un homme, à un homme, pour contempler l'objet féminin, une femme. Elle s'identifie au désir de l'homme pour interroger donc l'énigme de la féminité. Donc M. K n'intéresse pas Dora en tant que personne, mais en tant que pôle d'identification. C'est-à-dire qu'elle est aimantée par quoi? Par ce qu'il peut dire de sa femme, de son désir à l'égard de sa femme. Alors, donc, cette identification masculine de Dora sous-tend la question inconsciente de Dora, qu'est-ce qu'une femme pour un homme? Alors, Dora voulait bien se laisser courtiser par M. K. C'était même sa manière d'interroger le désir de M. K, à condition de ne pas être l'objet visé par le désir de M. K. À condition que M. K reste maître de son désir pour sa femme. Si bien qu'au moment où lui dit que sa femme n'est rien dans l'affaire, eh bien, tout s'effondre pour Dora. Elle devient, à partir de ce moment-là, que devient-elle? Eh bien, elle devient l'objet de son désir, hein, pur objet d'un désir sexuel. D'où le déchaînement de Dora, hein. Si elle est pur objet sexuel pour M. K, alors il en est de même pour les relations de son père avec Mme K, et donc elle est bien entrée dans le circuit d'échange, si vous voulez, comme pur objet sexuel entre son père et M. K. Alors, vous voyez, il y a Enfin, c'est là où on voit quand même la distinction des interprétations et la façon dont Lacan se décale par rapport à Freud, parce que Freud, au fond, lui, il pensait que ma femme n'est rien pour moi, était au fond une atteinte narcissique, parce que Freud avait le préjugé qu'elle aimait M. K. Hein. Et donc, il l'avait baffé en lui disant la même chose qu'à la gouvernante quelques jours avant. Hein. Alors que, pour Lacan, si vous voulez, c'est pas du tout de ça dont il s'agit. C'est-à-dire qu'elle s'identifie au désir des hommes pour regarder la question qui l'occupe, à savoir, quel est ce désir de ces hommes pour cette femme? Qu'est-ce que c'est que cette femme pour un homme? Et, si vous voulez, évidemment, c'est une question qui la touche intimement, c'est-à-dire, c'est aussi que suis-je pour l'autre, hein, aussi bien. Alors, finalement, dès lors qu'on a cet élément au niveau du déplacement de l'identification de on décale et qu'on réordonne finalement ce quatuor autrement, c'est-à-dire que Dora est identifiée et n'est pas intéressée par M. K, par sa personne, mais comme pôle d'identification, eh bien, il faut réinterpréter l'aphonie et l'atout. C'est-à-dire qu'il faut retrouver quelle est la cohérence. Est-ce que ça tient le coup de dire que Dora est identifiée à une identification à un homme? Alors, l'atout de Dora. Donc, Lacan n'a pas la même interprétation que Freud. Il fait de cet atout non pas une identification à Madame K, dans la relation de celle-ci à son amant, hein, la fellation donc, mais une identification à un trait du père. Alors, l'identification à un trait prélevé sur l'autre est un mécanisme que l'on rencontre communément et il n'est pas l'apanage d'une structure. Hein. On prélève Il y a des exemples comme ça, si vous voulez. Par exemple, les femmes, lorsqu'elles elles rompent avec un homme, eh bien, elles peuvent s'apercevoir qu'elles ont emprunté, prélevé un trait sur cet homme, que ce trait, si vous voulez, elles le répercutent, elles se sont identifiées à un trait de cet homme. C'est une manière de prendre. Elles rompent, mais elles gardent de l'objet anciennement aimé, un trait. Hein. Bon, donc, par la suite, mais là, Freud n'avait pas du tout ses points de référence, eh bien, il faut savoir que l'identification à un trait prélevé sur l'autre n'est pas l'apanage d'une structure. L'atout de Dora, c'est un trait d'identification à son père impuissant. C'est-à-dire à ce père qui est à la fois un homme riche et impuissant. Puissant et impuissant, riche, fortuné et infortuné, enfin, avec tout l'équivoque là-dessus. Eh bien, l'atout représente une identification sexuelle. Le rapport sexuel entre le père et Madame K par cunnilingus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si vous voulez, il faut placer par cette identification un trait prélevé sur le père impuissant, ça veut dire que Dora s'est identifiée à son père et non pas à Madame K. Et donc, si vous voulez, pour représenter cette identification sexuelle et comme c'est manifesté par un symptôme oral, eh bien, il s'agit d'un cunnilingus, c'est-à-dire le moyen que peuvent utiliser les hommes fortunés que leur force abandonne. Hein, voilà. Alors, pour la phonie, eh bien, comment Lacan va envisager la question de la phonie? Lacan met l'accent sur le seul à seul avec Madame K lorsque Monsieur K est en voyage. Hein, puisque la phonie, au départ, se produisait à ce moment-là. Alors, on sait que Dora parle abondamment avec Madame K, se font les confidences, etc., et même un peu trop au dire de chacun, mais elle est aphone lorsqu'elle est seule face à Madame K en l'absence de Monsieur K. Alors, l'aphonie représente là encore, au fond, une identification sexuelle péros entre son père et Madame K. C'est-à-dire que, si vous voulez, lorsqu'elle est seule à seule avec Madame K, en l'absence de Monsieur K, c'est le moment où d'ailleurs le père peut venir auprès de Madame K, eh bien, si vous voulez, elle est dans une espèce de rapport avec Madame K au niveau de son aphonie, où elle réaliserait un fantasme pérose de satisfaction sexuelle en prenant la place du père impuissant. Hein. C'est pour ça qu'on parle de cunnilingus, parce que là encore, c'est le moyen, comme je vous disais tout à l'heure, que peuvent utiliser les hommes fortunés lorsque leur force les abandonne. Alors donc, Dora, elle est identifiée, si vous voulez, au père impuissant, au père châtré, donc identification masculine, mais cela ne veut pas dire qu'elle est un homme. Hein. Au contraire, cette identification lui sert de support à interroger la féminité, qui est une question et non une réponse à sa féminité. C'est-à-dire qu'au fond, elle utilise un moyen, si vous voulez, c'est tout à fait inconscient, mais elle interroge, au fond, l'énigme qui est pour elle la féminité, et elle l'interroge, et ça se voit, le moyen qu'elle trouve pour poser sa question, c'est une identification virile. Hein? Alors, pourquoi au fond On peut se poser la question pourquoi cette identification virile pour poser sa question sur la féminité. Je veux dire, ça n'a rien d'évident. Alors, il faut essayer de rechercher, en tout cas c'est ce que Lacan a essayé de formaliser, en recherchant dans l'histoire de Dora à quoi pouvait correspondre cette aphonie et cette toux, hein, cette aphonie et cette toux qui concernent la sphère orale. Et Lacan établit un lien inconscient chez Dora entre sa question sur la féminité et sa relation infantile avec son frère. Alors, revenons donc à l'observation à la cure de Dora. Freud rapporte un souvenir d'enfance de Dora avec son frère, d'un an et demi son aîné, oui. Alors voilà, au fond, ce souvenir, c'est une scène où elle se voit suçant son pouce gauche tout en tiraillant en même temps de la main droite l'oreille de son frère, tranquillement assis à côté d'elle. Alors, il faut dire que ce frère, qui est un an et demi plus âgé qu'elle, était un modèle pour elle, une sorte de moi idéal, si vous voulez. Au fond, qu'est-ce que Lacan fait de ce souvenir? Il dit qu'il semble que l'on est là, dit-il, la matrice imaginaire où sont venues se couler toutes les situations que Dora a développées dans sa vie. Nous pouvons y prendre la mesure de ce que signifie maintenant pour elle la femme et l'homme. Donc vous voyez, c'est quand même... Bon, on va voir comment on peut développer ça, mais au fond, l'interrogation amenée par Lacan... quelle est la racine, finalement, infantile de cette identification virile de l'hystérique Dora, et quel lien, finalement, avec cette satisfaction orale par le biais de la toux et de la phonie. Hein? Voilà. Donc, comment expliquer ce souvenir, finalement, enfin, comment déchiffrer ce souvenir que Dora apporte d'elle en suçant son pouce, en tiraillant l'oreille de son frère? Eh bien, on peut dire que dans cette scène, elle se voit, on peut dire, dédoublée. D'une certaine manière, elle est dédoublée. C'est-à-dire qu'elle est dédoublée au sens où elle est elle-même en train de se satisfaire oralement, appendue à son frère. Hein? Son image n'est constituée qu'en incluant son frère. Hein? C'est un souvenir où elle ne se dissocie pas, elle ne se voit pas seule, elle ne se dissocie pas de l'image collée, elle est collée à son frère, si vous voulez. C'est-à-dire en s'identifiant imaginairement à son frère, donc comme en témoigne ce dédoublement. Eh bien, pour Lacan, ce souvenir infantile est au fond la matrice de ces identifications viriles à venir. Alors, on pourrait traduire ce souvenir infantile, on pourrait, la façon dont elle se voit, ce qu'elle est, donc qu'est-ce qu'une femme? Eh bien, d'une part, elle est imaginairement son frère, et celle qui suce, celle qui dans son corps a prélevé une zone orale. Et, si vous voulez, cette matrice se retrouve dans son lien avec ces deux hommes. Alors, à la place du frère, on peut mettre la série des hommes, Monsieur K, le père, et à la place de Sucé, eh bien, vous avez cette fameuse pulsion orale, la satisfaction orale de la toux et de la phonie. Alors, dans le texte de 1951, Intervention sur le transfert, Lacan propose comme hypothèse que pour accéder à la reconnaissance de sa féminité, il faudrait que Dora réalise l'assomption de son propre corps. Et il dit, en fait, que cette assomption de son propre corps, eh ben, ça n'a pas été possible. Hein. Il dit, elle n'a eu que le seul truchement de cette image, donc image de l'autre sexe, son frère, pour lui offrir une ouverture vers la féminité. Elle interroge donc la féminité en s'identifiant à un homme. Qu'est-ce qu'une femme pour un homme ? Et du fait de cette insuffisance à réaliser l'absomption de sa féminité, eh bien, Lacan nous dit qu'elle reste ouverte au morcellement fonctionnel que sont ses symptômes d'aphonie et de toux. Ce qui veut dire qu'à la question, au fond, que suis-je ? Qu'est-ce qu'une femme ? Eh bien, pas dire qu'elle répond, mais il y a celle qui tousse, celle qui est aphone. Hein. Elle ne prélève qu'une zone du corps, hein, et c'est pour ça que Lacan parle de morcellement fonctionnel. Hein. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a une défaillance de l'image narcissique pour le sujet, et au fond, elle se retrouve, je ne sais pas si vous avez entendu parler du stade du miroir, mais le stade du miroir, si vous voulez, c'est le moment où il y a une unification du corps, une anticipation de l'unité. Avant, le corps est perçu par l'enfin, c'est un corps morcelé, hein, c'est un corps morcelé avec des pulsions partielles, et l'expérience du miroir, qui est très connu, c'est-à-dire, au fond, le miroir, c'est le moment où le sujet se voit dans une image ou dans le semblable, et ça lui donne une certaine unité, hein, une sorte d'identification, d'unité. Hein. Alors évidemment, il faut faire intervenir, c'est pas le fait simplement de se voir dans un miroir qui fait l'unité du sujet, du moi, mais en tout cas, si vous voulez, ce que Lacan l'appelle le morcellement fonctionnel, c'est ça, c'est-à-dire que elle a eu que l'image de l'autre sexe pour réaliser une certaine unité corporelle, et, mais comme elle n'a pas pu réaliser son identité sexuelle, si vous voulez, d'une certaine manière, eh bien, elle n'a pu que réaliser un certain morcellement, c'est-à-dire qu'elle a prélevé la zone orale pour rendre compte, justement, de l'identification sexuelle. Voilà. Alors, évidemment, je ne sais pas, quelle heure est-il ? 9h30. On peut poursuivre un peu ou non, on peut passer aux discussions, si vous voulez, parce que j'ai pas tout à fait terminé, parce que, si vous voulez, bon, j'ai développé ça dans un certain sens, mais il ne faut pas oublier que ce texte de Dora, Freud initialement voulait l'appeler rêve et hystérie. Hein. Alors pourquoi il voulait l'appeler rêve et hystérie ? D'une part parce que c'est contemporain de son livre L'interprétation des rêves, et en plus il rapporte deux rêves de Dora dans cette analyse, deux rêves qu'il va étudier largement, etc. Pour lequel il va donner un certain nombre de... il va déchiffrer ce rêve. Et évidemment, ça me paraît difficile de faire l'impasse sur ces rêves. J'ai pensé que ça serait un peu long, alors je n'en ai choisi je n'ai choisi que le deuxième rêve, c'est-à-dire le rêve juste avant le départ de Dora. Alors, parce que ce deuxième rêve... Freud dira que c'est une véritable géographie sexuelle symbolique. Donc, là encore, vous allez voir que le rêve de Dora ne va pas être interrogé dans le sens d'une interrogation sur la féminité que pose Dora, et pourtant, ce rêve n'est que ça. C'est assez curieux, enfin, c'est assez particulier. Bon, alors, je vous lis rapidement ce deuxième rêve. Je me promène, alors voilà ce que raconte Dora à Freud, je me promène dans une ville que je ne connais pas, je vois des rues et des places qui me sont étrangères, j'entre ensuite dans une maison où j'habite, je vais dans ma chambre et j'y trouve une lettre de maman. Elle écrit que comme j'étais sortie à l'insu de mes parents, elle n'avait pas voulu m'informer que papa était tombé malade. Maintenant il est mort et si tu veux, tu peux venir. C'est une citation de la mère dans le rêve. Je vais à la gare et je demande peut-être 100 fois où est la gare. On me répond invariablement 5 minutes. Ensuite, je vois devant moi une épaisse forêt dans laquelle je pénètre et je questionne un homme que j'y rencontre. Il me dit « Encore 2h30 ». Il me propose de m'accompagner. Je refuse et je m'en vais toute seule. Je vois la gare devant moi et je ne puis l'atteindre. Ceci est accompagné d'un sentiment d'angoisse que l'on a dans un rêve où on ne peut pas avancer. Ensuite, je suis à la maison. Entre-temps, j'ai dû aller en voiture, mais je n'en sais rien. J'entre dans la loge du concierge et je le questionne au sujet de notre appartement. La femme de chambre m'ouvre et répond « Maman et les autres sont déjà au cimetière ». Après sa réponse, je vais dans ma chambre, mais je ne me sens pas triste du tout et je lis un gros livre qui se trouve sur mon bureau. Alors, vous voyez que quand on lit... Je suis allée un peu vite, mais quand on lit ce rêve comme ça, évidemment, ça n'évoque pas grand-chose. On ne comprend pas, c'est complètement énigmatique. Alors, ce rêve, évidemment, ne se laisse, c'est le principe même du rêve, c'est de ne se laisser déchiffrer qu'à partir des associations et des associations d'idées. Hein. C'est le commentaire qu'on fait sur son rêve, c'est les associations d'idées qu'on produit, qui peuvent mener à un déchiffrage du rêve. Et donc, évidemment, Freud invite Dora à procéder ainsi, c'est-à-dire qu'elle va faire, elle va associer à partir des images et des énoncés du rêve. Alors, on peut quand même remarquer que le récit du rêve est un questionnement, hein. Elle demande 100 fois où est la gare, elle questionne un homme qu'elle rencontre, elle questionne la concierge. Et enfin, le rêve se termine par une référence au savoir, aller lire le gros livre. Alors, je vais vous dire rapidement quelles sont les associations de Dora concernant ce rêve. Alors, il y a des morceaux, des segments, si vous voulez, du rêve qui sont commentés par Dora. La ville étrangère renvoie à un épisode où elle avait cherché une boîte dans laquelle était enfermé un album d'images qu'elle demanda à sa mère. Où est la boîte ? Lui avait-elle dit. Alors, donc, si vous voulez, la ville étrangère renvoie à un questionnement sur où est la boîte. La promenade à travers une ville étrangère renvoie à l'errance de Dora dans la ville de Dresde où elle alla toute seule, son cousin avait proposé de l'accompagner, elle alla toute seule, expression présente dans le texte du rêve, visiter une galerie d'art dans laquelle elle resta pendant 2 heures contemplant la Madone Sixtine. Alors que Freud lui demande ce qui lui avait tant plu, elle répondit « la Madone ». Elle demande 100 fois « Où est la gare ?» qui est un pendant de « Où est la boîte ?» hein. Demander 100 fois, c'est précisément ce qu'elle avait fait lorsque son père lui avait demandé de lui apporter du cognac. Elle avait demandé 100 fois à sa mère où se trouvait la clé du placard. Alors, le père avait demandé du cognac parce qu'il se disait fatigué et atteint d'insomnie. Elle pénètre dans une épaisse forêt, cette forêt lui évoque 2 choses. D'abord la forêt de la scène du lac, où après la gifle qu'elle asséna à M. K, elle demanda à un homme qu'elle rencontra combien de temps il lui faudrait pour faire le tour du lac. L'homme lui répondit 2h30. L'autre association renvoie à un tableau de l'exposition de la sécession qu'elle avait vu la veille. La même forêt s'y trouvait, et au fond du tableau, on voyait des nymphes. En fait, lorsqu'elle regardait cette forêt, elle devenait l'image cette forêt, en regardant la forêt, je sais pas comment ça s'appelle, on regarde une image et puis on en voit une autre à la place. C'est-à-dire, elle voit une forêt et puis, en regardant la forêt, peu à peu, on voit se dégager le corps d'une femme. Ça a un nom. Non, anamorphose, c'est pas ça. Je me souviens plus. Bon. Alors, où j'en étais? J'en étais à... voilà. Donc, et également, au fond du tableau, on voyait des nymphes. En fait, lorsqu'on regardait cette forêt, elle devenait l'image d'une femme. Et elle fait une association, également sur la polysémie du mot nymphe, qui désigne également les petites lèvres de la vulve. Hein? Alors, Freud dira à propos de ce rêve qu'il s'agit d'une véritable géographie sexuelle symbolique. Hein? Ça, c'est intéressant. Eh bien, pourquoi? Parce que, au fond, pour Freud, tous les lieux évoqués dans le rêve et les associations renvoient au corps féminin. La ville étrangère égale la boîte, mais aussi la Madone, cette figure idéalisée de vierge et de mère qu'elle contemple. La gare signifie en allemand le trafic et les rapports, le commerce. La forêt est équivalente à femme, est équivalente à nymphe, c'est-à-dire petite lèvre derrière la forêt pubienne. Donc Freud donne deux orientations dans son interprétation du rêve. Et vous allez voir qu'au fond, Freud, même s'il constate que c'est une véritable géographie symbolique sexuelle, eh bien, vous allez voir l'interprétation qu'il en donne. Il dit, eh bien, c'est un fantasme de vengeance à l'égard du père. Elle quitte la maison, part à l'étranger, son père meurt de chagrin. Vengeance parce qu'elle savait la raison de l'insomnie du père qui avait besoin de cognac pour dormir. Sous-entendu, l'insomnie est une conséquence de l'insatisfaction sexuelle. Donc, vengeance à l'égard du désir sexuel de son père pour Madame K. Son père étant mort, elle était maintenant libre de lire et d'aimer à sa guise. Donc, derrière ce fantasme de vengeance, Freud pense qu'il y a aussi un fantasme de défloration. Un homme veut l'accompagner dans la forêt nymphe. Donc là encore, Freud passe à côté de l'interprétation du rêve, puisqu'il met l'accent sur le rapport de Dora à son père et à un homme qui la déflorerait, alors qu'il s'agit d'un questionnement sur, là encore, le mystère de la féminité symbolisé par ces multiples questions « Où est la gare? Où est la boîte? Où est la clé ?» Interrogation suscitée par sa curiosité sexuelle, qu'elle essaie de satisfaire donc au-delà de son père, puisque son père, dans le rêve, est mort, dans le gros livre. Et on sait l'intérêt que Dora avait pour les gros livres, l'intérêt pour chercher les choses sexuelles. Elle passe donc 2 heures à contempler la Madone de Dresde, et 2 heures et demie seule, refusant la compagnie des hommes. L'homme du rêve, l'homme rencontré après la scène du lac, le cousin qui voulait l'accompagner dans la galerie de Dresde. C'est-à-dire que, au fond, on la voit fascinée par quoi? Par la Madone. Hein? Et restant seule, ne voulant pas être accompagnée par des hommes. Mais donc, Freud ne l'entend pas, revenant à nouveau sur le fantasme d'accouchement de Dora. Il en déduit que si l'analyse de sa patiente avait pu se poursuivre, elle aurait sans doute, dit-il, démontré que l'aspiration à la maternité était un obscur mais puissant motif du comportement de Dora. Au fond, qu'est-ce qu'une femme demande Dora à Freud? La réponse qu'elle reçoit, une mère. On comprend que Dora cessera de contredire Freud et se contentant de lui annoncer son départ à la séance suivante. Voilà. que je voulais vous dire. Alors, tout en sachant que je vous invite à lire ce texte, parce que je n'ai pas fait le résumé de l'ensemble du texte, il y a énormément de choses, mais finalement, c'est un texte que je trouve très intéressant, parce que, si vous voulez, il est construit exactement selon la dynamique de la cure, c'est-à-dire les questions telles qu'elles viennent pour Freud au fur et à mesure du matériel apporté par Dora. Et donc on voit aussi ce que c'est que le développement d'une cure à cette époque-là, en tout cas. Voilà. Donc ça fait partie des cinq psychanalyses. Oui, des cinq psychanalyses. Les autres étant le petit Hans, l'analyse du président Schreber, l'homme au loup et l'homme au rat. Hein? Voilà. Bon, y a-t-il des questions? Oui. Je ne comprends pas. Vous savez, on peut dire qu'aucune des interprétations de Freud qu'il donne, sauf que, bon, il apporte quand même, si vous voulez, des éléments qui vont permettre, finalement, de pouvoir travailler sur ce cas, et même Freud lui-même va pouvoir reprendre ce cas et le réenvisager. Mais au fond, l'interprétation de Freud à Dora, c'est justement, elle est prise dans une erreur par rapport à la question oedipienne, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout dissymétrisé la question de l'Oedipe chez la fille, et donc il part de l'idée que les femmes ne s'intéressent qu'aux hommes, si vous voulez. Et que il y a un amour inconscient pour le père qui la pousse du côté de Monsieur K. Mais pour des raisons obscures, elle a renoncé à Monsieur K. Et au fond, je vous apporte toutes ces choses peut-être un peu compliquées, mais au fond, qu'est-ce que Freud cherche à faire dans cette histoire? Il cherche à dire à Dora, mais non. Au fond, il faut que vous retrouviez votre amour avec Monsieur K. En fait, c'est ça ce qu'il veut. Il pense que le salut est dans l'amour. C'est-à-dire que, mais bien sûr, si vous voulez, elle dénie cet amour pour Monsieur K, mais en fait, si je lui fais retrouver cet amour dénié pour Monsieur K, eh bien, tout va se réordonner. C'est-à-dire que c'est ça l'idée de Freud à ce moment-là. Et ça, c'est très intéressant, si vous voulez, parce que au fond, Dora, comme c'est pas ça qui l'intéresse, dans le matériel qu'elle apporte, elle continue à apporter ses questions inconscientes. Et donc, ça n'altère pas son... Et c'est là toute la fraîcheur, d'ailleurs, du cas, c'est que ça n'altère rien. C'est-à-dire qu'au fond, elle n'est pas du tout intéressée par Freud, par ce que lui dit Freud. Et la seule chose, quand même, qui lui fait abandonner ce symptôme de tout, c'est quand même qu'il a repéré une identification sexuelle de Dora. Hein, mais pour le reste, si vous voulez, mais ce qu'il y a, c'est que, étant donné que Freud essaie de restituer au plus près le matériel de Dora, pour tous ceux qui liront ensuite, et même pour Freud, au fur et à mesure de ses élaborations et de la complication qu'il va apporter, que de ces choses-là, ça ne s'ordonne pas tout à fait comme ça, il va pouvoir même se critiquer 20 ans après sur la façon dont il a mené la cure, et qu'au fond, c'était un échec. La cure était un échec. Voilà. Oui ?
Vous venez terminer sur... vous avez dit que Freud avait répondu à Dora en disant que qu'est-ce qu'était une femme, il avait répondu une mère. Et je voulais savoir, est-ce que Lacan l'avait contredit là-dessus ou pas ?
Oui, si vous voulez, il ne lui dit pas cela. Il ne lui dit pas une mère. Ce qu'il y a, c'est que, si vous voulez, il lui... D'abord, il lui parle d'un fantasme d'accouchement, qu'elle a un fantasme d'accouchement, et puis il dit... Si la cure avait pu se prolonger, j'aurais pu mettre à jour qu'il y avait chez elle un puissant désir chez elle de maternité. C'est-à-dire que, au fond, c'est avec ça, si vous voulez, qu'il opère avec Dora. C'est-à-dire qu'il est persuadé qu'elle a un désir de maternité. Cet accouchement dont il parle à la fin, vous me donnez 15 jours, etc. Qu'est-ce que je raconte l'appendicite, l'histoire de l'appendicite, le met sur l'idée qu'au fond, il y a un désir de maternité. Bon. Mais, au lieu de laisser ouverte la question, parce qu'au fond, pour Freud, il ne sait pas ce que veulent les femmes. Et quand même, sa tendance, c'est de penser que ce qu'elles veulent, c'est avoir le phallus et dans l'enfant. Soit elles veulent à partir que l'homme lui donne, soit qu'elles l'obtiennent par le biais de l'enfant. C'est-à-dire qu'au fond, Freud a une difficulté à penser que être femme ou mère, c'est pas la même chose. Et qu'il pense que, au fond, pour une femme, son désir, c'est d'avoir le phallus, par le biais, par exemple, de l'enfant. Et donc, il y a cette difficulté, vraiment, chez Freud. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il ne comprend rien, que pour lui, c'est énigmatique que veut une femme. Bon, parce qu'il repère, évidemment, qu'au niveau de l'inconscient, ce signifiant-là manque, mais...
elle dit aussi pour Monsieur K, ça doit le tromper encore plus parce qu'il ne peut pas comprendre qu'une femme puisse pas aller vers Monsieur K. Il a des mots assez.
Oui, si vous voulez, alors là c'est vraiment un préjugé, c'est-à-dire que il faut voir, il faut pas. Ensuite, Freud va être beaucoup plus nuancé que ça. Mais au moment où il faut le placer dans le contexte de ses élaborations, en 1900, il a quand même l'idée que, oui, les filles aiment les hommes, uniquement. Et donc, alors, est-ce que ça veut dire que Dora n'aime pas les hommes ? Je veux dire que là, au niveau, si vous voulez, elle peut se marier, elle peut prendre comme objet un objet hétérosexuel. Ça ne dit pas son identité sexuelle. Et que pour interroger qu'est-ce que c'est que la féminité, elle passe par une identification virile. Et que l'homme l'intéresse. Et une femme peut être mariée à un homme et interroger au fond qu'est-ce qui intéresse l'homme au-delà d'elle-même. Et les femmes sont quand même très curieuses de ça.
C'est ce qu'elle a fait, apparemment, j'ai dit qu'elle avait passé sa vie à suspecter des maîtresses à son mari. Et...
Ah bon ?
Ben, je sais pas.
Ida Bauer ?
Oui.
Il paraît qu'elle était vraiment terrible.
Alors,
qu'elle
était. C'était pas vrai, soi-disant, c'était pas vrai, donc elle a refait ça.
Bon, ben voilà. Elle court après les femmes. Mais il faut bien dire que, quand même, beaucoup de femmes sont très aimantées par la question de l'autre femme. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce que recèlent les autres femmes ? L'amitié des femmes peut, vous savez, les copines, etc., ces relations à la puberté qui se tissent comme ça entre les filles, avec ces confidences qu'on fait, on s'aide mutuellement, on se fait des confidences, en général ça concerne d'ailleurs tout à fait les garçons, etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un intérêt des femmes entre elles, pour l'autre femme, pour essayer de repérer ce qu'il en est de ce mystère qu'elle pourrait posséder. Alors il y a effectivement dans la vie de certains sujets des femmes qui ont cette place-là, pas toutes bien sûr, mais qui c'est ces filles qui sont absolument fascinées par ces femmes qui font tomber tous les hommes. Mais si elles sont hystériques, c'est pas le fait de faire tomber les hommes qui les intéresse. C'est qu'est-ce qui fait que ces femmes font tomber tous les hommes. Enfin tous les hommes. Un fantasme. Mais bon, voilà. Oui.
Dans l'interprétation que Lacan propose donc par la suite, lui il réintroduit donc un autre homme, quoi, le frère. Et est-ce qu'on sait pourquoi il n'y a pas eu d'assomption du corps propre de Dora et pourquoi elle a dû se faire ce détour par son frère? Est-ce qu'il n'y a pas, il manque pas une information, je sais pas, une analyse en amont encore, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, alors, si vous voulez, finalement, ce qui est en amont, c'est, si je puis dire, c'est cette image infantile. C'est-à-dire que Lacan, à ce moment-là, c'est dans le texte de Freud, hein, Dora la suceuse. Au moment où Lacan donc voit dans son souvenir d'enfance, au fond, la première identification virile de Dora, c'est-à-dire au fond ce dédoublement entre elle-même, son moi et son moi idéal, et que son moi idéal est représenté par le frère, vous voyez. Et il met ça sur un axe, enfin bon, ce qu'on appelle l'axe imaginaire.
Pourquoi dans l'histoire de cette famille-là, le frère a eu temps de représenter quelque chose de si premier?
Non, enfin, c'est pas donné comme ça. C'est simplement, si vous voulez, pour Lacan à ce moment-là. Bon, après, il va pas tellement s'intéresser à cet aspect de la question, mais pour lui à ce moment-là, ce qu'il veut chercher, c'est au fond l'identification virile de l'hystérique. Est-ce qu'on peut en trouver son enracinement quelque part dans l'infantile? Et donc ce souvenir-là lui paraît être une illustration d'une première identification, si vous voulez, virile pour Dora. Voilà. Et c'est assez joli parce qu'en effet, on la voit un peu dédoublée entre le frère et elle-même en train de sucer. Et après, si vous voulez, dans la symptomatologie qu'elle présente, dans toute la problématique qu'elle présente, eh bien, on peut substituer au frère les hommes et elle dans la satisfaction orale à travers la toux et la phonie. Donc, c'est assez cohérent, si vous voulez. Bon. Après, évidemment, Lacan laissera tomber un certain nombre de choses de ce côté-là, mais il gardera, pour l'hystérique, il gardera bien sûr la question de l'identification virile comme quasiment un trait pathognomonique, si je puis dire, de l'hystérie, et l'identification au père châtré, à la jouissance du père châtré. Hein. La jouissance du père châtré, et là, on en a une représentation, jouissance, c'est-à-dire satisfaction sexuelle du père châtré, c'est-à-dire là, il faut le traduire, père impuissant, hein, qui n'a pas l'organe.
Hein. Et c'est avéré que le, enfin, je veux dire, ça fait partie des données objectives que le père était impuissant, ou alors c'est un fantasme que Dora véhicule, enfin.
Non, je crois qu'elle elle connaissait les confidences de... Oui. Mais si vous voulez, il faut être prudent parce que au fond, on va généraliser ça, c'est-à-dire qu'on va dire que l'hystérique s'identifie à la jouissance du père châtré. C'est-à-dire que donc toutes les hystériques n'ont pas des pères impuissants organiquement parlant. Bon. Et pourtant, on garde cette expression. Ça veut dire quoi? Pourquoi garde-t-on cette expression? Ça veut dire que le père, mais au sens, il faut le dégager de l'homme, du papa, quoi. Au fond, il est structurellement impuissant. Et c'est-à-dire qu'il ne peut pas apporter le signifiant manquant de la féminité. Par exemple, on peut le prendre sous cet aspect-là, si vous voulez. Et on voit bien que Freud est à cette place-là. C'est-à-dire qu'elle, elle convoque le savoir de Freud. Elle le convoque. Là aussi, enfin, bon, elle se prête. Mais Freud, lui, il veut savoir. Ça, c'est sûr, ça, il est animé d'un désir de savoir. Et au fond, qu'est-ce qu'elle va lui répondre à la fin de la cure en interrompant et elle lui dit qu'il est impuissant avec son savoir à répondre à sa question. Mais évidemment, c'est pas dit comme ça, parce que tout ça, ça se joue entre le transfert, la question inconsciente, etc. Mais c'est ça la réponse. Finalement, c'est c'est bien joli tout ce que vous me dites, mais c'est pas grand-chose qui est sorti. Vous savez, je crois qu'on ne change pas de structure. Ceci dit, on peut prendre une vue sur sa structure. Ça, je pense qu'en effet. Quand même, la cure, ça consiste à, quand Lacan dit une désupposition du savoir, c'est quand même que l'hystérique doit prendre la mesure de ce que le savoir ne peut pas répondre comme ça à tout. Il y a des choses qui ne sont pas du domaine du savoir, si vous voulez, le déchiffrage comme ça, ne va pas faire de la résolution, par exemple, sur des questions comme l'existence, la mort, la féminité, etc., sur un certain nombre de questions. Et donc, il s'agit de destituer cet autre auquel on pense qu'il faut tout savoir, le destituer de ce savoir, pour aborder justement les points d'impossible. Oui, voilà.
Mais pour Lacan, l'interprétation de la folie, ce serait un prélèvement de la zone aura, c'est ça?
Alors non, la folie pour Lacan?
Pour Lacan.
Oui, c'est-à-dire qu'elle prélève, oui, si vous voulez, c'est une identification sexuelle à l'impuissance du père. C'est-à-dire qu'elle s'identifie au père comme impuissant. Et donc, si vous voulez, elle est à la place de son père, seule à seule avec Madame K, en train de faire un cunnilingus. Mais c'est au niveau fantasmatique. Ça n'est même pas... c'est assez compliqué, parce que Dora ne peut pas le dire comme ça. C'est-à-dire qu'au fond, ce que fait Freud, c'est de mettre des mots là où il y a un symptôme chiffré. Et donc... Freud déchiffre ça, enfin, Lacan déchiffre également derrière, mais d'une autre manière.
Merci beaucoup.